Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours MVA sur les fondamentaux C#. Je m'appelle toujours Sébastien Pertus et nous attaquons le cinquième chapitre. Alors, sur ce chapitre, nous allons parler d'un opérateur qui est l'opérateur for. Alors, je vais reprendre encore une fois mon petit récapitulatif. Nous en sommes donc au cinquième chapitre, chapitre 5, et nous allons parler de l'opérateur for. Alors, l'opérateur for, il va servir à quoi? Il va servir à parcourir un nombre de fois un bloc de code, ce nombre de fois étant quelque chose que nous allons nous-mêmes décider. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que l'on revoie quelque chose, quelques trucs ensemble. Ici, j'ai un petit récapitulatif de tout ce que l'on a vu, juste pour qu'on soit bien clair sur la nomenclature. Vous voyez qu'ici, j'ai un fichier bloc-notes sur lequel j'ai un petit peu mis ce que nous avons vu. D'abord, une définition, les expressions, c'est quoi? C'est ce que nous écrivons souvent sur une ligne entière. Par exemple, ici, console.writeLine de Hello World, ou une comparaison avec un if, ou une affectation avec la variable x qui prend z plus 4, ou l'affectation d'une chaîne avec de l'inférence de type. Tout ça, ce sont des expressions, ce sont l'amalgame d'opérandes et d'opérateurs. Les opérateurs, eh bien, c'est tout ce qui va permettre de travailler sur des opérandes. Les opérateurs, eh bien, nous avons par exemple la concaténation de chaînes ou addition avec le mot-clé plus. Nous avons aussi le mot-clé égal qui va permettre d'affecter une valeur à une variable. Nous avons le test d'égalité qui est un opérateur qui va comparer l'opérande de gauche et l'opérande de droite. Nous avons les méthodes d'invocation, par exemple la méthode console.writeLine qui va permettre eh bien, d'écrire une chaîne de caractères qu'il y a entre ces deux parenthèses. Et nous avons même l'opérateur point, qui est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, qui va permettre d'accéder aux propriétés et méthodes d'un objet. Alors, ne vous inquiétez pas sur le concept d'objet, on y reviendra plus en détail. Sachez que de toute façon, en C#, en .NET, tout est objet, et sans même vous en rendre compte, on travaille déjà sur un objet. Mais passons. J'ai ici un petit programme C# que j'ai déjà écrit auparavant, au préalable, qui est. Alors, je vais repasser sur. Donc, je me retrouve ici sur un projet C# que j'ai déjà écrit. Petite astuce, sur la première ligne ici, vous voyez que j'ai écrit en une seule ligne eh bien, plusieurs variables qui sont de même type. Ça, c'est une facilité du langage C#. Je ne suis pas forcément fan de ce genre de sémantique, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vous devez connaître. Alors, vous voyez ici, j'ai repris un petit peu les opérateurs que l'on a déjà utilisés, l'opérateur d'assignement, le égal. Mais vous avez aussi des opérateurs mathématiques, hein, lorsqu'on a une variable de type entier, qui est donc ici l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Lorsque ce sont des chaînes de caractères, eh bien, le plus sert à faire de la concaténation de chaînes. Nous avons aussi vu les opérateurs de comparaison avec l'égalité, avec le supérieur ou égal, l'inférieur ou égal. Quelque chose de nouveau que l'on n'a pas vu encore, qui est l'association d'opérateurs avec le mot-clé double et le mot-clé double pipe. Alors ça, c'est un petit peu particulier. Comment est-ce que ça se lit? Eh bien, on dit tout simplement si la valeur x est supérieure à z et aussi que z est supérieur à 0, alors je vais exécuter le code qui est entre ces deux accolades. Voilà, ça permet d'avoir encore plus de précision dans notre if. Et après, j'ai exactement la même chose qui dit si x est supérieur à 0, mais à ce moment-là, ce n'est pas et que, c'est ou plutôt. Donc ici, vous pouvez remplacer ça par un terme français qui est et que, et sinon ici, vous pouvez remplacer par le terme ou plutôt. Donc je dis ici si x est supérieur à z, ou plutôt si x est égal à 0. Donc ça, ce qui fait que ce morceau de code-là s'exécutera. Que x soit supérieur à z ou sinon si x est égal à 0. Alors, ça permet d'avoir des façons supplémentaires d'exprimer une expression. Donc je vous propose maintenant de voir un petit peu comment est-ce que l'on travaille avec une boucle qui s'appelle la boucle for. Alors, je vais supprimer tout ça et on va travailler. Je vais donc écrire un for. Donc pour écrire un for, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on met le mot-clé for. Je vais donc ici déclarer entre ces accolades, entre ces parenthèses, pardon, une expression qui va définir mon for. Donc je vais l'écrire pour vous. Donc je vais faire int x égale 0. Donc là je déclare une variable de type x qui va contenir la valeur 0 au départ. Je vais lui dire jusqu'où elle peut monter. Donc, on va dire x inférieur ou égal à 10, par exemple. Et je vais lui dire que chaque fois qu'elle a exécuté une boucle, eh bien, elle s'additionne. X prend x plus 1. Et je vais écrire un bloc de code pour mon for. Et ce bloc de code-là, chaque fois que je vais rentrer dans ce bloc et que je vais en sortir, il va incrémenter x de 1 et il va donc s'exécuter finalement de 0 à 10. Il va s'exécuter 11 fois. Et donc ici, je vais mettre un console.write line de x.toString. Alors ce que je vais faire, je vais mettre quelque chose d'assez sympa. Valeur de x de point plus x.toString. Point virgule. Vous voyez ici, globalement, je vais exécuter 11 fois cette boucle parce que x va être égal à 0 jusqu'à 10 et 0 compris, hein. Donc je vais l'exécuter 11 fois. Donc, et après, ce que je vais faire ici, je vais faire un console.readline pour éviter d'arrêter l'exécution de mon code. Donc je vais enlever ce point d'arrêt et je vais exécuter. Donc vous voyez qu'ici, globalement, j'ai bien exécuté 11 fois ma boucle avec chaque fois l'affectation d'une nouvelle valeur à x qui varie de 0 à 10. J'ai bien écrit un for. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce for-là, je peux écrire plus que ça, hein. Je pourrais très bien faire aussi un if. If x égale à 7, on sait qu'à un moment donné, ça va être égal à 7. Je pourrais écrire console.writeLine, valeur 7 trouvée. Hop, point virgule. Donc là, on vous rappelait, hein, je peux très bien ne pas mettre d'accolade puisque je n'ai qu'une seule instruction dans mon x, dans mon if, pardon. Donc là, j'exécute. Il voit bien qu'ici, j'ai bien trouvé la valeur 7 juste avant de l'écrire. Alors, pour être plus cohérent, en général, il vaut mieux d'abord écrire la valeur. Vous voyez comme quoi l'ordre a une grosse importance, hein. Donc d'abord, j'écris la valeur et après, je dis si j'ai trouvé 7, eh bien, j'écris valeur 7 trouvée. Voilà, ça me paraît plus cohérent dans le rendu que j'ai pour mon utilisateur, même si pour le programme, ça ne change pas grand-chose. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de dire si jamais j'ai trouvé 7, à ce moment-là, eh bien, j'arrête l'exécution de mon for. Donc pour ça, c'est très simple. Donc là, je suis obligé de faire une accolade, de prendre ça et de le mettre à l'intérieur parce que je vais écrire deux instructions dans mon bloc if. Et ici, je vais mettre une nouvelle instruction qui s'appelle break. Et vous voyez, le break, alors ce qui est bien, c'est que Visual Studio, lorsque je mets un break ici, il me dit tu vas casser l'exécution d'un bloc de code. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il me le met en surbrillance. Donc il me dit si je mets un break, si je passe dans ce if-là, eh bien, je vais arrêter d'exécuter mon for. Donc globalement, si on lit ce code-là, on dit je vais partir de 0 à 10 et si je trouve x égale à 7, je m'arrête. Donc si j'exécute ce code-là, eh bien vous voyez qu'ici, j'ai bien exécuté de 0 à 7 et lorsque j'ai trouvé 7, eh bien j'ai fait un break et je suis sorti de ma boucle for. Alors une boucle for ici, on peut tout à fait eh bien l'écrire. Alors vous allez voir que ce qu'il y a bien, c'est que Visual Studio va pas mal vous aider. Par exemple, ici, lorsque je mets un clé for, vous voyez que j'ai l'intelligence qui apparaît. Si je clique sur tab deux fois, une fois, deux fois, vous voyez qu'ici, il m'écrit déjà un squelette d'un for et de comment est-ce que je l'écris. Donc ici, vous voyez que j'ai le curseur sur le i. Je peux renommer ma variable compteur, par exemple, entrée. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a écrit compteur sur le côté. Et length ici, je vais le remplacer par, je ne sais pas moi, x. D'accord? X, je l'ai pris sur. Vous voyez que x, ce qui est marrant, c'est que x, je l'ai bien déclaré ici. D'ailleurs, je l'ai bien utilisé ici. Mais vous voyez qu'ici, il me le met en surbrillance. Il me dit, attention, il y a un souci. D'ailleurs, lorsque je passe la souris dessus, il me dit, le nom x n'existe pas dans le contexte courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les variables ont ce que l'on appelle une portée. Une portée, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que je n'ai d'existence que dans le bloc de code dans lequel je suis contenu. Par exemple, le x qui est ici dans mon for n'a d'existence qu'ici. Lorsque je suis sorti de cette accolade, le x n'existe plus. Au contraire du y, z, e ici, qui n'ont d'existence que dans ce bloc-là. Et a fortiori aussi dans le for. C'est pour ça que ici, mon x, Eh bien, elle n'existe pas parce que je suis sorti de la première boucle for et le x qui était déclaré ici n'a plus d'existence. Donc, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est, eh bien, par exemple, si je veux continuer sur l'algorithme que j'ai fait ici, dire y prend x pour pouvoir garder la valeur qui était égale à x. Et ici, je mets un y. D'accord? Et après, ce que je peux faire ici, c'est donc mettre console.writeLine de y, point virgule. Donc là, je compile. Alors du coup, ici, il me dit que y n'a jamais été affecté, parce qu'il se peut que je ne sois pas forcément passé dans cette boucle-là for. Donc ça, c'est le compilateur qui me le dit. Donc ce que je vais faire, je vais juste mettre égal à 0 ici pour pas être embêté. Voilà. Donc ici, je peux exécuter. Vous allez voir qu'automatiquement, eh bien, je vais exécuter deux fois mon code. Et vous voyez qu'ici, j'ai écrit plusieurs fois 7. Alors pourquoi est-ce que j'écris plusieurs fois 7? Parce que chaque fois, j'écris la valeur de y, mais je ne le fais pas augmenter. C'est compteur que j'augmente. Donc en fait, il m'écrit 7 fois la valeur 7, tout simplement. Voilà l'utilisation d'un nouvel opérateur qui est l'opérateur for, qui va nous permettre d'exécuter un nombre de fois, eh bien, un bloc de code. Et on a vu aussi une deuxième chose qui est donc ce qu'on appelle la portée des variables qui n'a d'existence que dans le bloc dans lequel elles sont déclarées. Ça, c'est très important comme concept à bien comprendre parce que lorsque vous allez déclarer des variables, il faut bien savoir quelle est la portée de la variable pour savoir dans quel cas elle va être gardée en mémoire et dans quel cas est-ce qu'elle va être détruite une fois qu'elle a été utilisée. Voilà pour ce cours MVA sur l'opérateur for et nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours. À bientôt!